Bonjour à tous qui êtes rassemblés ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand homme, grand humainement, spirituellement, un grand saint, et qui va être proclamé docteur de l'Église par le pape Léon XIV le 1er novembre. C'est le cardinal Newman, Saint John Henry Newman. J'ai trouvé que c'était important que cet homme-là soit mis en lumière parce qu'il a un parcours de vie extraordinaire et que son influence s'exerce encore aujourd'hui. Guide-moi, douce lumière, dans l'obscurité qui m'entoure. Guide-moi de l'avant. La nuit est profonde. Et je suis loin de ma demeure. Guide-moi de l'avant. Veille sur mes pas. Je ne demande pas à voir l'horizon lointain. Un seul pas à la fois me suffit. C'est une des plus belles prières qu'a écrit le cardinal Newman. Et donc, je disais, le 31 juillet de cette année, le pape Léon XIV annonça que l'Église allait prochainement conférer le titre de docteur de l'Église à Saint John Henry Newman. Alors, quand j'ai commencé à écrire cette conférence, je ne connaissais pas la date, je l'attendais tous les jours, et puis elle est intervenue, je crois, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière. Voilà. Alors, à travers cette annonce, le pape souligne la vocation profondément catholique de la pensée anglaise et le rôle que peuvent jouer les saints convertis dans le renouvellement de l'Église. Je cite le pape. « Dans un monde traversé par le doute, la polarisation intellectuelle et la crise de sens, la reconnaissance de John Henry Newman comme docteur de l'Église vient rappeler l'importance du dialogue entre la foi et la pensée contemporaine. Sa réflexion sur le rôle de la conscience, sa défense de l'éducation intégrale, sa capacité à penser la vérité dans le temps font de lui un guide précieux pour les croyants du XXIe siècle. Le théologien espagnol Juan Luis Lorda, lui, indique que la grandeur théologique de Newman réside dans le fait que sa réflexion est nettement liée à sa vie, ce qui lui confère une valeur singulière et une authenticité difficile à égaler. Ses idées sur la foi, la conscience, le rapport entre foi et raison, le développement doctrinal et le rôle de l'Église dans l'histoire ne sont pas de simples spéculations académiques, mais le fruit mûr d'un parcours personnel dans lequel a toujours été une manière de chercher la vérité. Son livre « Apologia pro vita sua » peut se situer dans le sillage des confessions de saint Augustin par sa profondeur et son pouvoir d'interpellation. Je crois que je fais un petit intermède pour vous dire que s'il y a une chose, parce qu'il a écrit tellement, mais s'il y a une chose qu'on doit lire de Newman, c'est Apologia pro vita sua, c'est une merveille. Voilà. Bon, je vais quand même maintenant vous parler de sa vie, parce que je pense que vous le connaissez un peu, pas beaucoup, pas du tout. Voilà. Alors, John Henry Newman est né à Londres en 1801 dans une famille de tradition anglicane. Son père était banquier dans la City. Il était l'aîné de 6 enfants. À l'âge de 7 ans, il fut envoyé pensionnaire dans une école privée à Ealing. Et la banqueroute de son père en 1816 provoqua de grandes difficultés financières pour sa famille. Sur le plan religieux, avant l'âge de 15 ans, il n'avait pas de conviction religieuse établie, il ne voyait pas ce que pouvait signifier aimer Dieu. Mais, âgé de 16 ans, il tomba malade. Et cette maladie provoquera, selon ses termes, une conversion, c'est-à-dire l'acte de se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Il disait « Quand j'eus 15 ans, un grand changement se fit dans mes pensées. Je subis les influences d'un credo défini. Mon esprit ressentit l'empreinte du dogme et cette empreinte, grâce à Dieu, ne s'est jamais effacée ou obscurcie. » Bon, il aurait pu dire comme Alcide, le personnage de Madeleine Delbrel, dans un de ses romans, « Si tu vas au bout du monde, tu trouves des traces de Dieu. Si tu vas au fond de toi-même, tu trouves Dieu lui-même. » Alors Newman, c'était un élève brillant et précoce, et il fut inscrit en décembre 1816 par son père à l'université d'Oxford. Outre le cursus obligatoire, il suivit des cours de géologie, de chimie, de composition musicale et il consacra du temps à la logique et à la physique. Par ailleurs, c'était un excellent latiniste et helléniste. Et plus tard, il se mit à l'étude de l'hébreu afin de lire l'Ancien Testament dans le texte original. Et en plus, pour ajouter, c'était un excellent violoniste. Son père, en l'envoyant à Oxford, le destinait au barreau. Mais en 1821, il prit la décision d'entrer dans les ordres. Il fut ordonné diacre en 1823 et prêtre anglican le 29 mai 1825, en prenant la résolution de ne jamais se marier. À la fin de cette cérémonie, il écrivit dans son journal ces mots. « C'est fini. Je suis à toi, Seigneur. J'ai un peu le vertige et je n'arrive pas tout à fait à y croire ou à comprendre les mots à jamais. Ils sont si terribles. Pourtant, Seigneur, je ne demande pas le réconfort, mais plutôt la sanctification. Je me sens comme un homme jeté tout d'un coup en eau profonde. » Et le lendemain, il ajouta « Je porte la responsabilité des âmes jusqu'au jour de ma mort. » Alors, il fut nommé vice-principal d'Alban Hall à Oxford, puis tutor à Oriel College en 1826. Alors, c'est une fonction qui consistait à donner des cours magistraux et à assurer le suivi des étudiants. En 1828, il fut nommé curé de Sainte Marie's Virgin, situé au centre d'Oxford, donc de l'université. Il y prêchera ses sermons paroissiaux, qui seront publiés en 8 volumes de 1834 à 1843. Mais privé progressivement de ses élèves suite à un conflit avec le nouveau président du collège, Newman en profita pour se prolonger dans l'étude des pères de l'Église. Il fut séduit par l'idée d'une secrète résonance entre le monde terrestre et le monde divin. Il fut aussi frappé par la défense du Fils et du dogme trinitaire que menèrent avec acharnement plusieurs pères du IVe siècle, tout particulièrement l'évêque d'Alexandrie, saint Athanase. En 1843, donc, il publiera ses 15 sermons prononcés entre 1826 et 1843. Il s'agissait de conférences plus que de sermons prononcés dans le cadre de ses fonctions universitaires. Leur sujet principal et la nature de la foi et ses rapports avec la raison. Pour Newman, la foi constitue une forme d'exercice de la raison mais en même temps, elle ne se situe pas sur le même plan. Loin de se limiter à un simple contenu dogmatique, elle est le fruit d'une empreinte laissée par Dieu sur l'esprit de l'homme. Alors 1833, c'est une année décisive pour Newman, parce que c'est le début d'un mouvement qu'on appellera le mouvement d'Oxford. J'en avais parlé un peu le mois dernier quand j'avais parlé de l'Angleterre. Alors je résume parce que sinon ça serait trop long. Ce mouvement, donc le mouvement d'Oxford, cherche à lutter contre tout libéralisme théologique et contrevenir à la foi des origines grâce à la découverte des pères de l'Église. Il défend aussi l'indépendance de l'Église anglicane vis-à-vis du pouvoir politique, aspirant à ramener l'anglicanisme près des couches populaires. Donc Newman devient dès le début la figure de proue de ce mouvement en publiant des tracts for the Times. Il critique entre autres l'anglicanisme en s'inspirant de saint Augustin et de sa lutte contre les hérétiques donatistes. En 1841, Newman publie le tract 90, dont le but est d'affirmer que l'identité ecclésiologique de l'Église d'Angleterre est davantage catholique que protestante. Alors je peux vous dire que ce tract-là, à l'époque, ça a fait du bruit. Et il est immédiatement censuré par l'Université d'Oxford et une série de mandements épiscopaux condamne ce fameux tract 90. Une décision politique anéantit définitivement donc la foi de Newman en l'Église anglicane. Il s'agissait de la décision prise conjointement par les gouvernements de Grande-Bretagne et de Prusse de créer un évêché à Jérusalem dont l'occupant serait alternativement un anglican puis un membre de l'Église luthéro-calviniste. Cette décision purement politique apporta la preuve définitive de la soumission totale de ces deux Églises à leurs États respectifs. Donc, dès la fin de 1841, Newman ne prit aucune part effective au mouvement d'Oxford, qui se trouva décapité. Il avait commencé déjà à prendre du recul et, sans faire d'humour, à prendre des coups également. Mais peu à peu, les idées des tractariens allaient effectuer une transformation profonde d'une partie de l'Église anglicane. En 1842, Newman quitta Oriel College pour s'installer à Littlemore, à quelques kilomètres d'Oxford, en fondant une maison monastique. Le 7 septembre 1843, il démissionna de sa cure de Sainte Mary. Le 25, il y prêcha son dernier sermon anglican, publié sous le titre de « La séparation des amis ». C'était une cérémonie très émouvante, selon les témoins. Et à l'approche du mois d'octobre 1845, Newman s'apprêta à faire la démarche devenue inévitable. Je le cite dans un extrait de ses lettres. « Il y a en ce moment dans notre Église une impulsion extraordinaire qui porte les esprits religieux vers quelque chose de plus profond et de plus vrai que ce qui suffisait au siècle passé. Le siècle tend vers je ne sais quel inconnu et par extraordinaire, la seule communion religieuse qui dans le cœur de ces dernières années se soit montrée parmi nous en possession de cet inconnu, c'est l'Église de Rome. Elle seule, malgré ses erreurs et les inconvénients de son système pratique, a donné un essor libre et régulier aux sentiments intimes d'adoration, de mysticisme de tendresse, de révérence, de dévotion et à tant d'autres sentiments qui peuvent s'appeler plus spécialement catholiques. Le 8 octobre de cette même année, un religieux passionniste italien, alors en mission en Angleterre, le père Barberi, rencontre Newman. Aussitôt, celui-ci s'agenouilla devant lui et lui demanda d'entendre sa confession générale, puis de le recevoir dans l'Église catholique. Et le lendemain, il fit son acte d'abjuration de sa foi anglicane et reçut le baptême. Il fut alors reçu avec deux autres membres de sa communauté dans la pleine communion de l'Église catholique romaine. Et cet événement, eh bien, il a eu un effet domino parce qu'il a déclenché une vague de conversion dans les milieux intellectuels anglais. Et dans les années qui suivirent, plusieurs centaines d'étudiants et d'anciens étudiants d'Oxford et de Cambridge quittèrent l'Église d'Angleterre pour celle de Rome. Alors le mouvement allait se poursuivre d'une manière moins spectaculaire, mais à un rythme plus ou moins régulier jusqu'à maintenant, et ça continue toujours. Alors dans le monde catholique anglophone, Newman reste encore aujourd'hui la figure par excellence du converti. À la suite de son entrée dans l'Église catholique, le futur cardinal Wiseman lui donna le sacrement de confirmation. En février 1846, celui-ci lui proposa de s'installer avec ses amis dans l'ancien collège d'Oscott, rebaptisé par Newman Maryvale, le vallon de Marie. Et un des amis intimes de Newman, le docteur Puzet, pensait que la conversion de ce dernier était le plus grand événement arrivé dans l'Église anglicane depuis sa séparation d'avec l'Église de Rome, la crise la plus périlleuse qu'elle ait eue à supporter. Il disait, c'est vraiment un mystère. Et il pressentait que le retour de Newman à la foi à l'Église de ses pères était l'aurore du retour à la foi catholique de l'Angleterre qu'il reconnaissait être livrée à l'hérésie. Alors le 1er septembre 1846, le père Newman part pour Rome avec un camarade, Ambrose St. John, faire des études de théologie au Collège de la Propagande, qui était le séminaire des pays de mission. Alors, durant ce trajet, Newman découvrit avec émerveillement la présence réelle dans les églises. Pour lui, la religion catholique était une religion réelle, possédant un caractère objectif ou une existence concrète et non une simple opinion. Alors il s'est arrêté à Paris avant d'aller à Rome et, bien entendu, il s'est rendu à Notre-Dame des Victoires. Je cite le père Desgenettes, qui était le curé de l'époque. À son passage à Paris, il est venu à Notre-Dame des Victoires vénérer Marie au pied de l'autel de son cœur immaculé. Il m'a fait l'honneur de me visiter. Nous avons béni Dieu ensemble des grâces dont sa bonté l'a comblé. Attendez, je me suis... Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça va venir. Nous avons béni Dieu ensemble des grâces dont sa bonté l'a comblé et de toutes celles qu'il répand sur l'Angleterre. Alors Newman est ordonné prêtre catholique le 30 mai 1847, mais il ne voulait pas être prêtre diocésain. Alors, après mûre réflexion, il s'est tourné vers la congrégation de Saint-Philippe Néri, fondée au XVIe siècle. Newman était attiré par la spiritualité du saint avant sa conversion. Et devenu catholique, il l'exprima particulièrement dans quelques textes, les lettres sur la vocation oratorienne, les sermons prêchés dans l'église de Birmingham sur la mission de Saint-Philippe Néri, quelques prières et parmi toutes les litanies composées pour demander par l'intercession des saints les grâces dont il fut particulièrement enrichi. Alors il y a un aspect qui surtout attira Newman et qui exprime en synthèse très harmonieuse tout le monde intérieur de Saint-Philippe, c'est celui chanté dans le verset de la poésie « Guide-moi, lumière bienfaisante ». La bienveillance du saint n'est pas seulement une donnée de son caractère, mais elle renferme une singulière liberté d'esprit si chère à Newman. L'amour pour une vie de communion authentique, mais régi par les lois de la discrétion, le respect des dons de chacun, la simplicité savante qui fit la joie de Saint-Philippe. Une joie qui donne à penser, selon la formule de Goethe. Alors un mois après son ordination, Newman, avec quelques autres membres de la communauté de Marival, commença un noviciat à l'abbaye cistercienne de la Sainte-Croix, où il profita de cette période justement pour se documenter sur Saint-Philippe Néri et sur l'institution qu'il avait fondée. Un bref pontifical autorisant la fondation de l'oratoire en Angleterre fut accordé par le pape Pie IX, qui permit quelques légères modifications à la règle de Saint-Philippe Néri en vue de son adaptation à ce pays. À la fin de 1847, Newman et ses compagnons quittèrent Rome et le 1er février 1848, le premier oratoire du monde anglophone fut fondé à Marival, puis à Birmingham. Un deuxième oratoire fut ouvert à Londres par un condisciple de Newman, le père Faber, que j'ai retrouvé dans plusieurs affiliations sur le registre des affiliations des paroisses et communautés affiliées à l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. L'oratoire de Birmingham s'installera définitivement dans le faubourg d'Edgbaston en 1852. De 1851 à 1859, il devint recteur de l'université de Dublin avant de créer à Edgbaston en 1859 une école pour jeunes catholiques de classe supérieure, car il était persuadé de l'utilité de l'enseignement de la théologie pouvant servir les sciences. Mais mis au banc de la société anglicane et protestante de son pays après sa conversion, là, il va en 1864 écrire un livre donc que j'ai déjà cité, Apologia pro vita sua, pour répondre à une attaque du prêtre anglican Charles Kingsley, qui était le chapelain de la reine Victoria, entre autres. Il écrit dans un magazine « L'amour de la vérité pour elle-même n'a jamais été une vertu aux yeux du clergé romain. » Le père Newman nous informe qu'il n'est pas nécessaire qu'il le soit et somme toute qu'il ne doit pas l'être. Voilà, c'était une attaque menée en règle et le père Newman va lui répondre par un livre. Apologia pro vita sua, ou l'histoire de mes opinions religieuses, qui est devenu l'un des classiques de l'autobiographie religieuse, souvent comparé aux confessions de saint Augustin. Dans ce livre, Newman ausculte une large partie de sa vie, Il insiste sur la continuité parfaite entre sa foi anglicane et sa foi catholique. Il affirme le bien fondé de la doctrine du péché originel que la théologie protestante commençait alors à nier. Il défend la doctrine de l'infaillibilité de l'Église. Et enfin, il souligne l'intégrité et le souci de la vérité des prêtres catholiques. Eh bien, cet ouvrage a connu un succès spectaculaire et ce livre réhabilita largement son auteur dans l'opinion publique anglaise. En 1870, il se rallie au dogme de l'infaillibilité pontificale. Et en 1875, il publie ce qu'on appelle la lettre au duc de Norfolk pour répondre aux attaques de l'ancien Premier ministre Gladstone. Alors, au cœur du livre se trouve une réflexion sur le phénomène de la conscience et sur les rapports de celle-ci avec l'autorité. Alors, ces thèmes seront repris en partie par le Concile Vatican II. De 1868 à 1881, ce théologien est poète, édite lui-même la plupart de ses écrits en 36 volumes. Le 16 avril 1879, il part pour Rome après avoir appris son élévation au cardinalat par le pape Léon XIII. Vous voyez, un Léon l'élève au rang de cardinal et un autre Léon le fait docteur de l'Église. Eh bien, cette nouvelle le fait pleurer de joie. Pour lui, c'est la paix et l'honneur retrouvés. Et le 12 mai 1879, il reçut des mains du pape lui-même la barrette et le chapeau de cardinal sans avoir jamais été évêque, et il n'aura pas de diocèse. En devenant cardinal, il choisit pour devise une formule de saint François de Sales, l'un de ses auteurs spirituels préférés, dont le portrait ornait sa chapelle privée. Cor ad cor loquitur, ou le cœur parle au cœur. Eh bien, cette devise nous donne une indication sur la manière dont il comprenait la vie chrétienne, un appel à la sainteté expérimenté comme le désir profond du cœur humain d'entrer dans une intime communion avec le cœur de Dieu. Il nous rappelle que la fidélité à la prière nous transforme progressivement à la ressemblance de Dieu. En juin 1888, il se rendit à Londres une dernière fois pour préparer son testament. Le jour de Noël, il célébra son ultime messe et le 11 août 1890, il mourut d'une pneumonie. On l'enterra selon sa volonté dans le même tombeau que son confrère et ami Ambrose St. John, dans le petit cimetière de la maison de campagne de l'Oratoire à Rednal, près de Birmingham. Et l'on grava sur le mémorial, placé dans le cloître de l'église de l'Oratoire, cette épitaphe choisie par lui: Ex umbris et imaginibus, en veritatem. Hors des ombres et des images, vers la vérité. Alors je vais finir pour aujourd'hui par une prière au Sacré-Cœur de Jésus de Saint John Henry Newman. Mon Dieu, mon Sauveur, j'adore votre cœur sacré, car ce cœur est le siège de toutes vos tendres affections pour nous, pécheurs. Il est l'instrument et l'organe de votre amour. Il a battu pour nous Il a soupiré d'un grand désir de notre amour. Il a souffert douloureusement pour nous et pour notre salut. Le zèle l'enflamma pour que la gloire de Dieu fût manifestée en nous et pour nous. Il est le canal par lequel est venue à nous toute votre divine charité, toute votre incompréhensible protection pour nous, comme Dieu et comme homme, comme notre Créateur, notre Rédempteur et notre Juge, est venu à nous et y vient toujours par ce Sacré-Cœur, en un fleuve au courant mêlé inséparablement. Ô symbole très sacré et sacrement de l'amour divin et humain dans sa plénitude, vous m'avez sauvé par votre force divine et par votre affection humaine, et enfin par ce sang miraculeux dont vous débordiez. Amen. Voilà. J'arrête pour aujourd'hui, parce que ça serait trop long si je continuais. Alors je finirai samedi prochain en vous parlant de la postérité du cardinal Newman, et vous verrez, elle est très riche. Merci de m'avoir supporté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.